Radio Prague, les informations.
Aux élections communales, le parti social-démocrate remporte la victoire dans la plupart des grandes villes. Le parti Top 09 gagne à Prague. La social-démocratie et l'ODS s'imposent au premier tour des élections sénatoriales partielles. Le documentaire sur Jan Kaplicki a été apprécié en Pologne. Fin donc des élections communales et sénatoriales partielles qui se sont déroulées en Tchéquie ces vendredis et samedi. Dans les communes et les petites villes, ce sont différentes formations, associations, mouvements et candidats indépendants, ainsi que les candidats chrétiens-démocrates qui ont obtenu le plus de voix, soit au total près de 50%. La situation est différente dans les grandes villes. À Prague, la victoire a été remportée par le parti Top 09 devant un autre parti de droite ODS et le ČSSD en troisième position. C'est la première défaite que l'ODS essuie dans la capitale tchèque. Zdeněk Toma, ex-gouverneur de la Banque nationale et le candidat du parti Top 09 au poste de maire de Prague. Dans les grandes villes, ce sont en revanche les sociaux-démocrates qui sont sortis vainqueurs de ces élections communales. Ils ont réussi notamment dans le nord de la Moravie. Désormais, le ČSSD occupera 14 importantes municipalités du pays, tandis que l'ODS n'en aura que 5. Ce sont les candidats des deux principaux partis de l'échiquier politique tchèque, le Parti social-démocrate et le Parti civique-démocrate, qui se sont imposés au premier tour des élections sénatoriales partielles et qui passeront au deuxième tour. Le Parti social-démocrate a 22 candidats qui se sont qualifiés à ce deuxième tour, tandis que l'ODS en a 19. Le chef intérimaire du Parti social-démocrate, Bohuslav Sobotka, souhaite que son parti obtienne 12 nouveaux sièges au Sénat, ce qui lui permettrait d'y avoir la majorité et de freiner, d'après ses propres mots, les réformes réalisées ou préparées par la coalition gouvernementale. Petr Nečas, leader du Parti civique-démocrate, estime, lui, que l'éventuelle victoire des sociaux-démocrates au deuxième tour se traduirait par une destruction du programme gouvernemental par la Chambre du Parlement. Il a déclaré ce dimanche dans un débat télévisé. La Philharmonie tchèque prépare un nouveau projet qui sera consacré aux femmes enceintes dans le cadre d'un cycle s'étendant jusqu'au mois de juin 2011. Elle donnera 16 concerts destinés aux futures mamans qui leur permettront de se reposer et de méditer en écoutant des belles musiques. Le documentaire consacré à l'architecte défunt Jan Kaplicki et à son projet de la Bibliothèque nationale L'œil au-dessus de Prague a remporté un beau succès en Pologne en gagnant le premier prix au Festival international du film de Varsovie dans la section des films documentaires météo. Ce lundi, le temps sera en partie dégagé. Les températures se situeront autour de 9 degrés. C'était le journal présenté par Alana Gabertova.
Culture sans frontières. Magdalena Rosinkova.
Je pense que vraiment dans tous les pays, en tout cas de cette Europe, mais pas seulement. C'est le cas aussi au Brésil, sans doute maintenant en Chine et en Russie, d'un diktat de l'apparence et d'une course effrénée vers la jeunesse. Avec évidemment l'inconvénient de laisser sur le côté de la route les personnes dont on juge qu'elles sont plus dans la course, les vieilles personnes. Et moi, c'est vrai que je mène un combat personnel contre ce jeunisme exacerbé, et j'essaie de montrer de la vieillesse une autre image, de sortir justement des archétypes, d'essayer de faire comprendre que il n'y a pas d'âge pour aimer, bien sûr, et qu'en plus la vieillesse est peut-être un moment aussi délicieux qu'on a à vivre, évidemment si on n'est pas malade si on est en bonne santé, parce que c'est quand même le lieu de la liberté.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Culture sans frontières. Rencontre aujourd'hui avec Noëlle Châtelet, romancière, essayiste, ancienne professeure d'université, par ailleurs la sœur de l'ancien premier ministre français Lionel Jospin, mais surtout une femme engagée. Si hélas aucun de ses romans n'a été pour l'instant traduit en tchèque, les Pragois ont désormais l'occasion de découvrir l'une de ses œuvres grâce au studio Saint-Germain, la scène expérimentale du Rock Café à Prague, rue Národní. Début octobre, ce dernier a présenté « La femme coquelicot », une adaptation théâtrale du roman éponyme de Noëlle Châtelet, venu à cette occasion à Prague. « La femme coquelicot », en tchèque « Jena Vlčímák », est le monologue intime d'une actrice dans le spectacle pragois interprété par Hanna Maciuchová. La pièce raconte l'histoire d'une passion entre Marthe, une dame de 70 ans, et Félix, un monsieur de 90 ans. L'amour tardif est un des sujets délicats, voire tabous, que Noëlle Châtelet aborde dans ses écrits. Un des sujets dont nous avons parlé au café du studio Saint-Germain. À l'origine de cette pièce de théâtre, La femme coquelicot, il y a votre roman. Est-ce qu'en l'écrivant, vous l'avez imaginé au théâtre ou ça ne vous est pas venu à l'esprit ?
Ah non, pas du tout. Jusque-là, je n'avais jamais imaginé écrire pour le théâtre. Et puis, les choses se sont précipitées. Et un jour, il y a un jeune homme qui est venu me voir, qui avait l'âge de mon fils. Et il devait avoir 37 ans à l'époque. Et il m'a dit, voilà, j'ai envie de monter... au théâtre, La femme coquelicot, j'ai une actrice magnifique et je sens ce texte, je veux le faire, etc. Et est-ce que vous me faites confiance ? J'ai dit bien sûr, je fais toujours confiance aux jeunes. Et il a fait une très 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 belle mise en scène avec une actrice magnifique en France qui s'appelle Thérèse Roussel et qui, comme ce soir Anna, l'a joué en monologue, seule. Et c'est un texte quand même très littéraire, très écrit, et c'est un texte difficile à jouer. Mais en même temps, depuis, il y a d'autres livres de moi qui ont été adaptés au théâtre et qui vont être adaptés au théâtre. Et je me rends compte qu'il y a peut-être quelque chose dans mon écriture...
Quelque chose de théâtral ?
Oui, qui donne l'idée de la mise en scène théâtrale. Ça vient peut-être du fait que j'écris à haute voix, que je mets en bouche mes phrases. Non seulement je les travaille dans la forme, dans l'écriture, mais je les travaille aussi au son. Et ça me donne évidemment aujourd'hui l'envie d'écrire directement pour le théâtre. Et bien sûr.
C'est lié peut-être aussi au fait que vous étiez comédienne ?
Oui, je pense que ça a joué un rôle. Alors, j'ai pas été comédienne de métier, hein. J'enseignais à l'université pendant 37 ans. Et puis, par ailleurs, comme je fréquentais beaucoup le milieu du cinéma en France, j'ai eu l'opportunité de jouer dans une quinzaine de films, dont une grande série d'ailleurs en Allemagne. Et le métier de comédienne m'intéresse vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai appris beaucoup pour l'écriture. De ce métier de comédienne. Quand j'écris une scène, je la vois. Je fais toujours presque une mise en scène des situations. Je pourrais dire, quand j'écris une scène importante, je pourrais décrire la pièce, dire où est la fenêtre, la porte. Je vois les mouvements du personnage dans l'espace, j'ai une imagination très très visuelle. C'est peut-être aussi pour ça que les textes se prêtent aussi au théâtre. C'est possible ça.
Et depuis quand écrivez-vous au fait ?
Alors j'écris depuis plus de 37 ans maintenant. Le tout premier texte a été un texte qui était en fait ma thèse d'université, qui est un texte que j'ai écrit sur les rapports du corps avec l'alimentation. Et ensuite, j'ai poursuivi un travail, soit avec des essais, soit à travers des nouvelles, soit à travers des romans ou des contes. Un travail où le corps est toujours présent. C'est ça qui m'intéresse dans ce qui peut aujourd'hui ressembler à une œuvre, à un tout en tout cas. C'est ces métamorphoses du corps à certains moments essentiels d'un parcours humain. Où évidemment l'amour est présent, la mort aussi, et tous les changements du corps et de l'âme qui interfèrent. Hein. Par exemple, la femme Coquelicot, c'est une femme qui a 70 ans, elle est dans l'ennui, dans le gris de la vie de tous les jours, la quotidienneté, et un jour, en buvant son thé le matin, elle se rend compte qu'elle n'a pas envie de thé, elle a envie de café ce matin-là. Et son corps sait avant elle qu'il va être amoureux. Parce que l'envie de café, c'est une envie d'amour. C'est une envie d'autre chose. Voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est de justement, ces moments très, très précieux et délicats où l'âme et le corps se répondent, se questionnent, et où le corps est lui-même un langage de l'âme, en quelque sorte.
A zrazená. Zrazená, že on tady není. A ponížená, že já tu jsem. A to nemluvím vůbec o tom, že mám tady na stávánky kávy. Ani nevím, který z nich je můj. Odcházím.
Avant la femme Coquelicot, j'ai écrit un autre roman qui n'a pas été, lui, monté en scène, sur scène, mais qui est... qu'il faut lire... En reflet, comme ça, en miroir avec la femme Coquelicot. Ça s'appelle La Dame en bleu. Et c'est un éloge, ce livre est un éloge, est également un éloge de la vieillesse, puisque c'est l'histoire d'une femme de 50 ans qui rencontre une vieille dame sur son chemin et qui a envie de devenir une vieille dame avant l'âge. Pour échapper aux contraintes, aux obligations, à la violence de la rentabilité, de la performance, etc. Et c'est La Dame en bleu comme La Femme Coquelicot sont deux livres tête-bêche, en quelque sorte, qui portent tous les deux le même message de tolérance et de sagesse. Parce qu'on deviendra tous vieux, de même qu'on mourra tous. Et cette espèce de déni de la vieillesse et de la mort est un vrai drame pour une grande partie des populations qui vivent dans cette obsession justement du jeunisme absolu.
En 2004, Noël Châtelet sort La Dernière Leçon, un livre sur la mort volontaire de sa propre mère, Mireille Jospin, sage-femme et citoyenne engagée, tout comme sa fille.
Ça a été un immense succès en France et je le dis non pas par narcissisme, mais je pense que si ça a eu ce succès, c'est que en France en tout cas, les gens sont prêts à envisager cette forme possible de mort, c'est-à-dire que la loi est encore très en deçà en France de ce que désirent vraiment les gens. Les législateurs ne sont pas prêts à changer la loi, qui est très très très, qui n'est pas du tout permissive. Alors que les gens ont de moins en moins envie de voir leur vieux père ou leur vieux mère réclamer la mort et sans pouvoir l'obtenir, et je trouve que ce qu'a fait ma mère a été moi je l'ai vécu comme un exemple extraordinaire d'un choix de mort qui est aussi un choix de vie, parce qu'elle a voulu partir debout. Elle ne voulait pas peser ni sur ses enfants ni sur la société. En ce qui me concerne, elle a tout fait pour ne pas m'obliger à devenir la mère de ma mère. Et moi, je trouve que ça a été son plus beau cadeau de mère, que de me laisser pour toujours l'image de ce qu'elle a été, c'est-à-dire une femme militante et citoyenne. Il y a autour de moi dans ma génération, hein, beaucoup de femmes et d'hommes qui sont avec des vieux parents qui ont perdu la tête ou à qui il faut mettre des couches, des situations
ça
tragiques.
Ça fait aussi peut-être partie de la vieillesse et de la mort.
Oui, ça en fait peut-être partie, mais si ceux qui le vivent n'ont pas envie de le vivre, s'ils le vivent malgré eux, pourquoi ne pas leur laisser le choix et le droit de partir à la fois sereinement et dignement? Hein, ça, c'est une vraie question de société qui se pose beaucoup en France. Le livre a beaucoup aidé à interroger justement les législateurs sur cette question. Et aujourd'hui, je milite dans une association qui s'appelle l'association « Droit pour mourir dans la dignité » qui a été, il y a 30 ans, fondée par ma propre mère et mon père. Et aujourd'hui, je suis membre du comité de parrainage de cette association qui, pour moi, est un de mes combats les plus importants avec celui que je mène pour redonner à la vieillesse une autre image.
Donc l'écriture, cet engagement, ce sont vos principales préoccupations
tout à fait.
En ce moment.
Tout à fait.
Vous dites que vous êtes à la retraite et vous êtes contente de l'être.
Je suis à la retraite de l'enseignement, mais je ne suis pas à la retraite tout court parce que je fais encore plus de choses que quand j'enseignais. Je m'occupe de beaucoup d'associations. J'ai écrit aussi un livre sur la première greffe de visage avec toute l'équipe qui a permis cette magnifique aventure, et je me bats aussi pour les dons d'organes. Ça aussi, c'est un autre combat, mais il est aussi toujours lié à la mort, hein, d'une certaine façon. Je pense que nous sommes dans des sociétés qui ne sont pas des sociétés de partage. Ce sont des sociétés où chacun vit à la fois dans la solitude et la détresse parfois de la solitude, et qu'il faut s'habituer à partager le siècle dans lequel on est avec un minimum de fraternité et de solidarité. Ce n'est pas le cas.
C'était l'écrivaine Noëlle Châtelet dans Culture sans frontières. Magdalena Hrozinková vous remercie de votre attention et vous souhaite une très bonne écoute de la suite de notre programme.
Miroir de la société. Alena Gebertova.
Ces derniers jours, les médias tchèques apportaient fréquemment des commentaires, des extraits de discours ou encore des entretiens avec certains participants à la conférence internationale Forum 2000 qui a eu lieu au début de cette semaine et qui en était cette année à sa 14e édition. La religion sous ses différents aspects a été un des sujets qui ont été soulevés à ce traditionnel rendez-vous intellectuel qui s'est tenu à Prague et qui a été annoncé sous le titre « Le monde dans lequel nous voulons vivre ». Dans le cadre du Forum 2000, l'Institut français de Prague a organisé une table ronde lors de laquelle 4 intervenants ont réfléchi sur la nouvelle place de la religion au sein des relations internationales. À l'issue de cette réunion, Radio Prague a pu s'entretenir avec un de ses participants, Monsieur Joseph Maila, professeur de sociologie politique et de relations internationales.
La religion apparaît comme un phénomène très important aujourd'hui dans l'agenda des relations internationales. Pourquoi ?
Oui, pour plusieurs raisons, je crois. D'abord parce que la religion apparaît de plus en plus comme une part essentielle dans l'identité des peuples et des personnes. Et c'est vrai que la perte de l'influence idéologique dans le monde, le fait aussi que les régions se recomposent dans la mondialisation à partir de leur appartenance à des civilisations, à des contextes culturels, ce retour du culturel signe aussi le retour du religieux.
Ce phénomène, paraît-il, est particulièrement marquant dans les sociétés sécularisées. Avec la chute du mur de Berlin, les pays de l'Est semblent plus touchés que d'autres.
Oui, alors il faut bien entendu, quand on parle de religion, distinguer selon les régions. Il y a des régions pour lesquelles la sécularisation n'apparaît pas comme un phénomène important. Si je vous disais par exemple que la religion est importante en Arabie Saoudite, effectivement, la globalisation n'a rien fait, la chute du mur de Berlin n'a pas eu d'effet immédiat, et cet intérêt pour le religieux, puisque l'Arabie Saoudite est bâtie sur la religion en tant que qu'État, ne change pas. En réalité, le débat sur la religion dans les sociétés sécularisées est en train de revenir. Et il revient par le biais, effectivement, de l'immigration. C'est parce qu'il y a une population immigrée qui, elle, a des habitudes anciennes, qui viennent de pays où la pratique religieuse est extrêmement forte, où l'identité religieuse est souvent inséparable de l'identité nationale, que ces populations immigrées, présentes sur un sol sécularisé, veulent pratiquer leur religion. Et du coup, l'Europe sécularisée qui a oublié la religion voit la religion revenir, mais pas par le biais du christianisme. Elle revient par le biais de l'islam. Mais du coup, le christianisme se réveille pour se positionner par rapport à cette perception nouvelle, à cette donnée nouvelle.
Le rôle de la religion, pour telle ou telle raison, a tendance à monter, mais en même temps, on n'a pas l'impression que le nombre de croyants aurait tendance à monter.
Non, vous avez raison de faire cette remarque importante. Et c'est une question qui se présente en forme de paradoxe, parce que la religion revient, elle occupe un espace qui est nouveau, en tout cas qui est plus visible, et en réalité, le nombre de croyants n'a pas augmenté, et il est toujours aussi bas. C'est donc qu'elle ne revient pas sous la forme de la religion, mais qu'elle revient sous la forme de l'identité. C'est-à-dire, le débat qu'elle met en avant est un débat qui répond à la question « qui nous sommes ?» de tradition culturelle, de tradition religieuse culturelle, de tradition chrétienne en l'occurrence. Et elle ne revient pas sous la forme de la question religieuse, à savoir à quoi nous croyons. Ce qui est posé n'est pas une question théologique. Quel est le contenu de la foi? Non, ce n'est pas ça la question qui est posée. La question, c'est de se dire, puisqu'il y a d'autres populations qui sont devenues européennes, mais qui appartiennent à une autre tradition culturelle et religieuse, la question, comme dans un miroir, nous est renvoyée. Elle nous dit, mais vous, qui êtes-vous? Et là, nous nous réveillons devant cette question que d'autres nous posent à partir de notre sol.
L'émergence de la religion peut-elle devenir un déclencheur de la dangerosité? Vous avez mentionné dans ce contexte, je pense, la Russie.
Oui, alors je n'ai pas mentionné la dangerosité du religieux sur la Russie. La religion n'est pas dangereuse en soi, au contraire. Quelqu'un qui croit, c'est quelqu'un qui est en principe, n'est-ce pas, se livre à une attitude compassionnelle, croit qu'il y a un Dieu qui est bon, qui est juste, qui commande la bonté et la justice. Non, la question de la religion devient plus compliquée, disons, et quelquefois menaçante, quand elle se couple avec une question politique, quand elle devient un instrument pour mobiliser les gens, en leur disant, vous les croyants, vous devez être derrière moi, il faut faire ceci ou cela, et surtout, à partir de la religion, proposer des solutions qui appartiennent à l'ordre politique. Lorsque la religion se met à donner des leçons sur ce qu'il faut faire dans la société, effectivement, là, ça commence à être inquiétant. Mais cela n'interdit pas à n'importe quel croyant, de quand il vote, quand il fait de la politique, de dire, mais au fond, si je veux être en conformité avec les principes auxquels je crois, comment je dois agir, comment je dois voter, quelle loi je dois faire. Mais c'est tout à fait différent de la question de se mobiliser à partir de la question religieuse pour apporter des solutions religieuses à des problèmes qui sont politiques.
L'idée stéréotypée veut que la Tchéquie soit présentée comme le pays le plus athée en Europe. Le saviez-vous ?
Oui, effectivement. En tant que professeur de relations internationales, de sociologie des religions, le cas tchèque est donné en exemple. Enfin, un exemple. Il est donné en illustration de la sécularisation la plus poussée dans l'espace européen, dans l'espace européen central et oriental. Et effectivement, pour des raisons qui tiennent à l'histoire, pour des raisons qui tiennent au passage du communisme, pour des raisons aussi de transmission, nous appelons ça la transmission des culturelles, la transmission religieuse, la République tchèque a connu une situation qui l'a fait se présenter effectivement sous un jour différent. Et c'est étonnant quand on vous répond venant de France, hein. Parce qu'effectivement, nous passons en France pour l'État le plus sécularisé. Mais je dois dire, le plus sécularisé conduit à beaucoup d'agnosticisme, comme il peut permettre aussi beaucoup de religiosité, mais une religiosité privée. Le cas tchèque est intéressant parce que il montre un aspect beaucoup plus tranché sur les réponses. Est-ce que vous croyez ou est-ce que vous ne croyez pas? Effectivement, la réponse en Tchéquie est assez étonnante du point de vue de ceux que l'on sonde et qui vous répondent effectivement qu'ils n'ont pas de croyances religieuses.
Le religieux a surgi aussi dans le discours d'inauguration qui a été prononcé par l'ex-président tchèque Václav Havel et qui a été reproduit dans son intégralité dans une récente édition du quotidien économique Hospodářské noviny. Dans son discours, considéré par beaucoup comme alarmiste, Václav Havel apportait un regard particulièrement critique sur notre monde et sur notre civilisation, qui est d'après ses propres mots une première civilisation globalisée et une première civilisation athée. Une civilisation donc qui a rompu ses liens avec l'infini et l'éternité. Pour Václav Havel, l'orgueil représente le trait le plus dangereux de cette civilisation athée. La disparition du respect à l'égard du secret, à l'égard de tout ce que nous n'arrivons pas à mesurer et à identifier, constitue dans son optique un autre aspect de ce phénomène, et de constater « Je pense que la récente crise financière et économique a adressé au monde d'aujourd'hui un signal important qui implique un très profond avertissement. » C'était donc le miroir de la société et c'est aussi la fin de tout notre programme en français d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi, je vous dis au revoir. Nasredanou.
En su receptor Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 8 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 kHz. A las 14 horas UTC transmitimos para España por los 11.720 kHz. A las 18 y 19 horas UTC los oyentes españoles nos pueden sintonizar por 5.930 kHz. Radio Praga transmite a las 20:30 horas UTC para España y América Latina por los 5.930 kHz. Los oyentes latinoamericanos nos pueden sintonizar a las 23 horas UTC por las frecuencias de 9.440 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 9.445 kHz a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A las 0:30 horas UTC los radioescuchas de Centro y Sudamérica nos pueden sintonizar por los 9.790 kHz.